Actuellement, où va l'Allemagne? Que veut-elle? Que veut-elle? Que veut-elle?
En janvier 1933, les actualités françaises s'interrogent. Où va l'Allemagne?
Adolf Hitler, devenu chancelier, réunit pour la première fois à l'hôtel Kaiserhof le ministère qu'il a formé.
Nommé chancelier, Adolf Hitler s'est donc emparé du pouvoir par la voie légale.
Voilà l'Allemagne toute baignée de nationalisme exacerbé.
Et en France, on suppose que la colère populaire a trouvé son héros.
La doctrine hitlérienne a rallié tous les mécontents, tous les chômeurs, tous ceux qui croyaient n'avoir plus de raison de vivre.
Or, en réalité...
Il y a en ce moment quelqu'un qui se trouve à Berlin et qui se charge de penser à l'avenir.
C'est la bourgeoisie conservatrice allemande qui a confié les clés du pouvoir à Hitler pour anéantir les risques d'une révolution marxiste. Ainsi, dans cette Europe des années 30 qui s'apprête à s'enflammer, où en étaient dans leur vie nos cinq futurs adversaires du nazisme? C'est la trame de ce deuxième épisode.
Moi, je n'aime pas les cambrioleurs et les pillards. Et il y avait dans mon pays une bande de cambrioleurs et de pillards, c'était l'armée nazie. Et puis j'aime encore moins les gens qui aident les cambrioleurs et les pillards, et c'était le gouvernement de Vichy.
Ces cinq femmes que nous suivons dans leur évolution personnelle et sociale ont traversé ce contexte politique violent des années 30. Elles ont été les témoins de cette course à la guerre. Je vous rappelle leurs noms, Lucie Aubrac, Geneviève de Gaulle et trois femmes moins illustres, Mila Racine, juive d'origine russe, Simone Mathieu, joueuse de tennis, et Renée Davély, chanteuse réaliste. Alors, quel regard ont-elles porté sur ce péril nazi qui montait en Europe? Et quel en fut l'écho dans leur vie de femme? C'est ce que vous allez découvrir dans ce nouveau chapitre.
Ce que la Française supporte moins que tout autre, c'est l'ennemi chez elle. C'est de voir chez elle celui qu'elle n'y a pas invité. On ne s'impose pas chez une femme française.
Je m'appelle Philippe Collin et vous écoutez Les Résistantes. Deuxième épisode, au bord de l'abîme.
J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre.
Voyons, madame, vous, qu'est-ce que vous faisiez?
Moi, je distribuais des tracts et je fabriquais des fausses cartes d'identité.
J'ai fait des transmissions de consignes pour parachutage, des organisations maquis.
Vous avez posé vous-même les pinces plastiques?
Avec des détonateurs que j'avais fabriqués moi-même parce qu'on en manquait.
Quelle était la raison qui vous animait?
C'était pour sauver son pays.
Le récit débute à Berlin, le 30 janvier 1933. Vers midi, le vieux président Hindenburg nomme Adolf Hitler, chancelier de la République de Weimar. Avec l'appui du centre droit conservateur et catholique, le leader du parti nazi devient chef du gouvernement. Le soir de sa nomination, une foule païenne se presse dans les rues. Les sections d'assaut défilent et acclament leur chef dans une communion virile. Dans les couloirs de la chancellerie, un reporter de la radio allemande est à l'affût. Il commente en direct, le son est d'origine.
Wir sind nun herübergegangen aus dem Zimmer, in dem wir den Herrn Reichspräsidenten sehen konnten.
Nous sommes maintenant dans la pièce où se trouve le nouveau chancelier du Reich, Adolf Hitler. Écoutez pendant quelques instants la musique et la joie des foules qui défilent sous la fenêtre.
L'ardeur de cet enthousiasme soulève la question du désir nazi au sein de la nation allemande. L'Allemagne fut-elle complice ou victime du nazisme en 1933?
Il est extrêmement difficile de voir le degré, au fond, de consentement de la population allemande au nazisme.
Olivier Wiewiórka est historien.
Il est clair que lorsque Hitler accède au pouvoir en 1933. Il va mener une répression extrêmement féroce. Il va s'attaquer non seulement à la gauche, non seulement aux communistes, non seulement aux juifs, mais également à une partie du centre catholique, voire à une partie de la droite. Et donc cette mise au pas, cette Gleichschaltung, est extrêmement rapide et extrêmement efficace, beaucoup plus rapide, pour donner un autre exemple, qu'en Italie, où Mussolini a attendu quand même plusieurs années avant d'imposer sa loi.
Tout le monde en Allemagne sait qu'on a établi une liste d'indésirables. Et on commence à liquider tous les opposants gênants, sans jugement ni publicité, avec toute l'Europe qui nous regarde.
Donc vous avez incontestablement les premières victimes du nazisme, les premières personnes qui vont peupler les camps de concentration qui ouvrent dès 1934.
Herbert !
Ce sont les Allemands.
Herbert ! Ils sont là, ils viennent vous arrêter. Vous n'avez pas un instant à perdre. Filez !
Ceci posé, il ne faut pas non plus, me semble-t-il, faire de l'Allemagne une nation victime et imaginer que le pouvoir nazi ne s'impose que par la terreur et la coercition. Et de ce point de vue, je pense que vous avez un concept qui est très intéressant, qui a été forgé par l'historien italien Renzo De Felice, qui distingue ce qu'il appelle le consensus actif du consensus passif. Il est clair que vous avez toute une partie des Allemands qui va militer pour le régime nazi, parce que ce régime nazi comble ses aspirations. Et donc, il se mobilise au service de la cause. Mais vous avez aussi toute une partie de la population allemande qui n'est pas nécessairement nazie, qui n'a pas une fougue extrême pour Adolf Hitler, qui, au fond, laisse faire, parce que le régime nazi réussit à juguler le chômage, parce que le régime nazi réussit, sans tirer un coup de feu, à réviser le traité de Versailles, parce que l'Allemagne, qui était un pays paria sur la scène internationale, redevient une grande puissance. Et donc toute cette population, accepte le régime nazi sans nécessairement, je le répète, se mobiliser en sa faveur.
Dans cette Allemagne de 1933, Geneviève de Gaulle a 13 ans. Rappelez-vous, elle vit en Sarre, avec son père, Xavier de Gaulle, frère aîné de Charles. Alors, quel souvenir Geneviève de Gaulle a-t-elle gardé de cette époque ?
Tout à coup, on a vu déferler la vague nazie. C'est-à-dire, moi je me souviens de Sarrebruck avec tous ces drapeaux à croix gammée, mais vraiment, il n'y a pas une maison qui ne portait ce drapeau à croix gammée. C'était prodigieux. Et il y a eu les premiers pogroms de synagogue, à peu près tout de suite. Mon père m'avait expliqué aussi ce que c'était que le nazisme. Il m'a fait lire une traduction de Mein Kampf, en m'expliquant les choses.
Mein Kampf von Adolf Hitler.
Cette jeune adolescente française a donc une conscience précoce de ce qui se passe sous ses yeux en Allemagne. Que dire d'autre ?
Pour Xavier de Gaulle et sa fille, le paganisme hitlérien contrevient complètement au catholicisme.
Frédérique Naud-Dufour est historienne et biographe de Geneviève de Gaulle.
L'idéologie de la race et de l'exclusion, ça ne peut pas du tout coller avec leur respect de l'humain, leur volonté de protéger les plus faibles. Et Xavier de Gaulle est très soucieux de faire toucher cela du doigt à sa fille, parce qu'il veut que sa fille comprenne les dangers de cette idéologie.
Sieg! Heil! Sieg! Heil! Sieg! Heil!
Cette menace du nazisme, Xavier il y est confronté quotidiennement dans son métier d'ingénieur des mines, puisqu'il descend au fond de la mine pour surveiller le travail, etc. Et au bout d'un moment, il est obligé d'avoir une arme sur lui parce que le climat devient, après la prise de pouvoir par les nazis, extrêmement tendu. Donc cette tension, elle envahit finalement cette famille française qui vient en Allemagne et elle va devenir finalement insupportable ou plus du tout tenable à partir de 1935. Puisqu'il y a un référendum, en fait une sorte de plébiscite en Sarre pour décider de l'avenir de ce territoire, s'il doit être attaché à la France ou à l'Allemagne, et les Sarrois à 90,8% votent pour le rattachement à l'Allemagne, et beaucoup de Français quittent le territoire à ce moment-là, dont Xavier qui va partir avec toute sa famille à Rennes, où il va demeurer jusqu'en juin 1938.
Après le référendum en Sarre, qui chasse les maudits Français, Geneviève de Gaulle rentre donc en France. Et en France, c'est là que vit aussi désormais notre deuxième personnage, Mila Racine, jeune juive immigrée, qui est arrivée de Moscou avec sa famille en 1926. Mila vit avec ses parents dans le 17e arrondissement de Paris, au 97 rue de Rome, dans un appartement bourgeois près de la gare Saint-Lazare. Et on retrouve la trace de Mila Racine dans les archives en 1936.
Alors effectivement, elle obtient en 1936 son certificat d'études secondaires.
Zoé Grimbert est historienne.
Et ce qu'on sait d'après des récits, des témoignages notamment de sa sœur et de son frère, c'est qu'elle mène en fait la vie d'une jeune fille de cette époque, d'un quartier bourgeois. Donc elle se promène avec ses amis au parc Monceau. Elle va au cinéma.
Tu me parles le cœur. Tu me parles le cœur.
Elle fait des pique-niques avec ses amis dans des parcs parisiens. Et par ailleurs, il semble qu'à cette époque-là, après l'obtention de son certificat d'études, elle se lance dans un engagement que l'on pourrait qualifier de politique, puisqu'elle va être à l'origine de la création d'une branche d'une association juive qui s'appelle la WISO, donc c'est la Women's International Zionist Organization. Et c'est une organisation qui est née en Angleterre en 1920 et dont le but était d'aider les femmes et les enfants en Palestine. Et Mila constate qu'à Paris, la branche de cette organisation, la branche parisienne, est constituée essentiellement de femmes de l'âge de sa mère. Et elle souhaite dynamiser cette organisation et insuffler un peu de vie dans le mouvement sioniste. Et ce qu'elle fait, c'est qu'elle crée une branche de jeunesse mixte de la WISO, a priori en 1937, à la suite de l'obtention de son certificat d'études secondaires. Ce qui nous laisse à penser qu'elle évolue dans un milieu juif, en termes de relations sociales, et qu'elle est influencée par les idéaux sionistes de son père.
En
1936, cette famille juive et russe vit dans une France sous haute tension. Les ligues d'extrême droite foisonnent, la société se déchire, et l'antisémitisme se répand comme un sirop noir.
C'est Blum ! C'est Blum !
En février 1936, sur le boulevard Saint-Germain, en plein Paris, Léon Blum, le leader du Front populaire, manque d'être lynché par une horde antisémite. On imagine le choc et l'effroi dans la famille de Mila Racine.
Il est certain que la famille lit la presse, que la famille est au courant des premières manifestations d'antisémitisme violent. D'ailleurs, les Juifs de France s'inquiètent beaucoup à cette époque-là. Et même les enfants, qu'ils soient politisés ou non d'ailleurs, sont conscients du risque qui pèse sur eux.
On a aussi une autre archive qui est intéressante, Zoé Grimbert, c'est qu'en 1938, il y a une archive qui atteste qu'elle est à Londres et qu'elle prend des cours d'anglais. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette archive, Zoé ?
Ce qu'on sait, c'est que Mila était une bonne élève quand elle était au lycée Racine et elle excellait particulièrement en anglais. Et elle serait partie à Londres pour apprendre l'anglais. Donc, dans cette archive-là, on apprend qu'elle est étudiante au City of London College, qu'elle suit un cours pour étrangers. En revanche, on ne sait pas dans quel but. Ça, c'est pas clair pour nous.
Ce que ça nous dit quand même, c'est un niveau d'éducation certain, évidemment, et puis aussi une dimension universelle. On parle plusieurs langues, on est ouvert sur un monde plus ouvert, en tout cas.
Alors, cette dimension universelle, oui, qui est aussi présente dans ces familles juives de Russie, qui parlent souvent beaucoup de langues, qui sont francisées pour une partie d'entre elles, qui sont ouvertes à une forme de culture universelle. On sait par exemple que Mila lit Victor Hugo. Il y a cette appétence pour ce qu'on peut appeler une culture universelle. Et ce que ça montre aussi, je pense, c'est une forme d'indépendance chez une jeune fille de ces années-là qui part vivre seule à Londres. Elle n'est pas accompagnée.
Ce séjour à Londres se fait en effet loin de ses parents, à l'âge de 19 ans. Sans doute une expérience d'indépendance et de maturité pour Mila Racine. Par ailleurs, il se peut que Mila Racine ait exercé une autre activité de jeunesse à la fin des années 30.
On va décharger tous ensemble.
On peut peut-être faire l'hypothèse qu'avec sa sœur Sacha, elles appartiennent aux éclaireurs israélites de France qui sont une organisation de scouts juifs. Alors c'est une hypothèse, mais qu'on peut faire au vu de ce qui se passe ensuite pendant la guerre. Et donc ça les amènerait à côtoyer d'autres jeunes et là aussi à passer des moments, notamment l'été, dans des camps de vacances, et à être des jeunes scouts, ce qui a aussi son importance pour leur destin pendant la guerre.
On souffle lentement. Moshelev, redresse-toi. Allez, on recommence. Une, deux.
En quoi ça compte pour la suite, à la fois la viso et peut-être ces scouts israélites? Qu'est-ce que ça raconte des années qui viennent, peut-être déjà chez Mila Racine à ce moment-là?
Ce qu'on peut estimer, c'est que, premièrement, le fait d'être à l'origine de la création d'une branche, d'une organisation, ça montre un certain savoir-faire. Un savoir-faire dans l'organisation et dans la mise en œuvre d'un mouvement qu'on peut qualifier de politique. Et ça, c'est un savoir-faire important, puisque dans le cadre de la Seconde Guerre mondiale, c'est une jeune fille qui va être à l'origine, là encore, de la création de certaines filières d'évasion et de groupes de jeunes qui décident de s'engager. Donc ça, ça a une importance. Et ça donne par ailleurs des contacts, un réseau, en tout cas si on veut, un réseau d'individus qu'elle va être amenée à recroiser pendant la guerre et qui peuvent être à l'origine de l'engagement, ou en tout cas du déclenchement de l'engagement ou de certaines opportunités, de certaines actions qu'elle va faire.
Et aussi une dimension sociale, puisqu'il est question de prendre soin des autres en fait, hein.
Oui, c'est vrai que l'aviso a pour but d'aider les femmes et les enfants qui souhaitent s'installer en Palestine ou qui sont en Palestine. Et donc, dès ces années-là, on voit dans son engagement associatif une volonté de se mettre au service de ceux qui en ont besoin.
En 1938, Hitler est donc au pouvoir depuis 5 ans.
Heil Hitler !
Heil Hitler !
Après avoir liquidé la République de Weimar, il règne désormais sur le Troisième Reich. Et ces deux jeunes filles, Geneviève de Gaulle et Mila Racine, ont une conscience aiguë du péril nazi. Par le biais d'expériences intimes, elles savent l'une et l'autre l'ampleur du danger qui rôde. Revenons en Allemagne, en mars 1938. Adolf Hitler est né le 20 avril 1889 en Autriche. Et il n'est citoyen allemand que depuis 1932. Cette nationalité toute récente lui a permis de devenir chancelier l'année suivante. Or, au fond de lui, le Führer aspire à réunir ces deux pays sous la même bannière, le Troisième Reich. Car maintenant qu'il tient l'Allemagne dans sa main, il veut mettre en place son projet, l'expansion germanique. Et le 11 mars 1938, après une stratégie d'intimidation féroce sur le chancelier autrichien, Hitler passe en force.
L'Anschluss est maintenant un fait accompli. Le chancelier Hitler pénètre dans son pays natal qu'il vient de rattacher au Reich.
Archives Pathé, 1938.
Après avoir traversé Linz, le cortège se dirige vers Vienne. L'enthousiasme des nazis autrichiens croît au fur et à mesure que se poursuit la marche triomphale. Et à l'arrivée dans l'ancienne capitale impériale, c'est une foule de près d'un million d'hommes, femmes et enfants qui accueillent la Führer.
L'Anschluss, c'est une très vieille ambition d'Adolf Hitler.
L'historien Olivier Wiewiórka.
Vous aviez même eu, en 1934, un putsch qui avait été fomenté par les nazis autrichiens qui avait conduit à l'assassinat du chancelier Dollfuss. Et donc Hitler n'en démord pas. L'Autriche est une sorte d'aberration géopolitique et elle doit retourner dans le giron allemand. Et c'est manœuvre qu'Hitler va tenter en 1938, en exerçant d'abord une très forte intimidation sur le chancelier Schusnigg, qui est obligé, au fond, de céder, et ensuite en lançant ses forces armées à la conquête de l'Autriche. Il n'y a aucune opposition réelle de la part des Autrichiens, et il y a au contraire, par la suite, un référendum qui va accorder une quasi-unanimité à ce coup de force.
L'Anschluss, c'est un coup de tonnerre dans le ciel de la vieille Europe. Mais comme les électeurs autrichiens ont ratifié cette annexion, la vie continue. Elle continue entre autres pour Simone Mathieu, notre troisième personnage. Car au moment où Adolf Hitler absorbe l'Autriche, Simone Mathieu, est au sommet de sa carrière sportive.
La finale du simple dames oppose Madame Mathieu en blanc à Madame Half qui porte un sweater foncé.
Simone Mathieu est devenue une vraie vedette du tennis.
Après avoir été nettement dominée au premier set, Madame Mathieu reprend un peu l'avantage et malgré la belle exhibition de Madame Half, elle remporte de justesse le match par 0-6, 18, 6-4.
Et au printemps 1938, Simone Mathieu tutoie la gloire.
Alors, Simone Mathieu a 30 ans à ce moment-là. Elle a déjà joué 6 finales en simple dames de Roland-Garros, toutes perdues.
Éric Allary est historien.
Et en 1938, elle se met à gagner le simple dames, la finale du double mixte et la finale du double dames, ce qui est historique. Aucun athlète au monde qui est venu à Roland-Garros n'a jamais pu refaire ou accomplir cet exploit. Alors on parle de Roland-Garros depuis peu de temps, puisque Roland-Garros a été inauguré en 1927, le premier tournoi ayant lieu en 1928, et cette triple victoire de Simone Mathieu vient couronner un travail extraordinaire.
Simone Mathieu, dans le Grand Écho du Nord, le 26 septembre 1931. Je me suis mariée peu de temps après avoir gagné, à 17 ans, le championnat de tennis junior pour la troisième fois. Et bien qu'ayant maintenant deux enfants, je pratique le tennis avec autant d'ardeur que lorsque j'étais jeune fille. Je ne pense pas que la maternité soit un handicap au tennis, bien qu'elle puisse être la cause d'une certaine diminution de force physique. C'est le seul désavantage que je puisse y voir.
Entre 1923 et 1938, elle a eu deux enfants, coup sur coup. Elle s'est mariée à 17 ans en 1925, ce qui a provoqué l'ire d'une partie des journalistes qui pensaient qu'elle était en train de casser sa carrière. Et on la voit en 1938, donc, être encore numéro 1 française. Elle l'est depuis 10 ans. Elle l'est depuis 1928. Que de chemin parcouru.
Simone Mathieu, une joueuse de tennis au palmarès hors norme, mais une carrière oubliée.
C'est une carrière extraordinaire. Rien qu'en 1938, elle gagne 32 tournois en Europe. C'est une immense championne. C'est une des trois meilleures tenniswoman de l'époque. Et enfin, la France retrouve une championne digne de ce nom, c'est-à-dire une championne qu'on ne peut pas passer sous silence comme la divine qui l'a précédée dans les années 20, Suzanne Lenglen, dans un style très, très différent, évidemment. Et pour Simone Mathieu, c'est pas tellement la recherche du vedettariat qui la motive, c'est réellement la défense du tennis féminin. C'est-à-dire que le tennis féminin doit aussi avoir quelques photos à la une des journaux, et notamment du magazine qui a été créé par son époux, qui s'appelle Smash, qui est la grande revue du tennis de l'époque. Elle était profondément agacée par cette omnipotence, omniprésence des hommes dans le milieu du tennis et dans le milieu de la presse. Et du reste, elle l'a précisé à plusieurs reprises dans Smash, et plus tard aussi, après la Seconde Guerre mondiale, qu'elle en avait assez de voir cette hyper-masculinité dans le monde du tennis, et qu'elle ne comprenait pas pourquoi la finale de Roland-Garros 1938 avait eu lieu entre midi et 14h, c'est-à-dire au moment où ceux qui venaient voir la finale des hommes à 14h étaient en train de se sustenter et de manger autour du stade de Roland-Garros.
Simone Mathieu, dans Match, le 14 octobre 1930. Vous voulez m'interviewer ? Eh bien, j'en profiterai d'abord pour vous dire qu'en plusieurs occasions, les journalistes n'ont pas été gentils pour nous, faibles femmes. Notamment l'année dernière, quand nous essuyâmes une si cuisante défaite à Eastbourne devant l'équipe féminine anglaise. On ne nous a pas épargnés.
Alors en effet, elle veut défendre le tennis féminin, Simone Mathieu, mais le tennis, Éric Allary, c'est aussi peut-être un moyen pour elle d'une indépendance, de voyage, peut-être de s'échapper un peu de ce carcan bourgeois qui l'oppresse un peu, peut-être, je n'en sais rien.
Simone Mathieu découvre que finalement, par le tennis international, par la tournée européenne, la tournée américaine, elle peut voyager. Et qu'elle va échapper à une condition féminine, pas une condition sociale. Elle est fière d'être une fille de la grande bourgeoisie parce que ça lui permet de financer ses voyages. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, elle n'a aucun revenu en jouant au tennis. Même quand elle gagne 30 tournois dans l'année, elle ne gagne quasiment rien. Donc, elle a deux chances familiales, des parents qui s'occupent de ses deux enfants dans les Cévennes et son époux, qui a 8 ans de plus, qui lui permet de la rendre libre en quelque sorte de faire ce qu'elle souhaite pour devenir numéro un mondial. En 1939, à la veille de la guerre, elle en passe de devenir numéro un mondial.
Spectators had plenty to think about when Mrs. Helen Wills Moody took the court with Madame Mathieu. Madame Mathieu became her victim at 6-3, 6-0.
Alors, que dit la presse de la fin de ces années 30 de la joueuse Simone Mathieu? Quel qualificatif on retrouve sous la plume des journalistes? Peut-être qu'on peut trouver là, Eric, déjà un portrait de ce que va être cette femme sous l'occupation et pendant la guerre.
C'est une femme qui est souvent fustigée par la presse française, mais aussi par la presse anglaise. Une anecdote. Elle joue un quart de finale à Wimbledon, à la fin des années 30, et elle fait un peu le McEnroe féminin avant l'heure. Vous voyez, on est obligé de prendre une référence masculine. Et elle jette sa raquette, elle s'en va du court en plein match, vociférant contre l'arbitre. Elle revient, elle tape dans le filet, et elle dit « même le filet est anglais ». Même le filet est anglais, donc ça fait montre aussi d'une forme de patriotisme et surtout d'un très mauvais caractère. Très mauvais caractère, le caractère bien trempé que l'on retrouve chez d'autres femmes qui entreront plus tard dans la résistance, des gens comme Lucie Aubrac qui avait un caractère bien trempé. Et quelque part, elle est fidèle à sa réputation, elle n'est pas là pour se faire aimer, elle n'est pas là pour arriver en moto de vison comme la divine, elle est là pour gagner les matchs, elle a un coup droit dévastateur, c'est un jeu de tennis pas très beau à voir, mais qui est très efficace. Et plus la presse se moque de ce jeu dans les années 20, plus elle a envie, évidemment, de gagner. Et on s'intéresse à elle, enfin, en 1937, 38, 39.
Un fort caractère, c'est aussi parfois symptomatique d'une indocilité.
Assurément, elle refuse toute forme d'autorité. Elle déteste l'autorité sportive, elle veut être indépendante dans la vie personnelle, dans la vie conjugale. C'est un couple qui échangeait peu avec son époux, mais qui s'appréciait énormément. Après, effectivement, cette indocilité, on la retrouve partout, et elle est fière de dire qu'elle préfère parler cash plutôt que de passer par les détours.
Prends ton service.
En juin 1938, dans les tribunes de Roland-Garros, Marlène Dietrich assiste à la victoire de Simone Mathieu avec une fourrure en lynx de Sibérie posée sur les épaules. Marlène Dietrich, l'ange bleu, fut sans doute un modèle féminin pour Renée Davély, notre quatrième personnage. Renée, cette femme divorcée qui vit à Paris et qui aspire à devenir chanteuse.
Avant 1938, on n'a aucune trace de production publique de Renée Davély.
Olivier Loub est historien.
En 1938, elle a déjà 36 ans. Ça veut dire qu'on n'est pas avec quelqu'un qui est une artiste comme les chanteuses réalistes habituelles, Edith Piaf ou Damia ou Lucienne Boyer. Non, c'est pas ça du tout, Renée Davély. Elle vient donc de province, d'un milieu de classe moyenne, mais elle est plus qu'intéressée par la musique, ça, toute sa vie, hein, jusqu'à la fin de sa vie. Et ce qu'elle fait, c'est que lorsqu'elle est installée à Paris, lorsque son amie de l'époque, comme elle dit elle-même, la meuble dans un très bel appartement qui est dans le quartier de l'Étoile, il y a un piano et elle prend des cours de chant. Alors ça, c'est particulièrement intéressant. C'est à la fois une modalité bourgeoise, la femme d'intérieur qui prend des cours de chant. En même temps, elle est représentante avec sa voiture, sillonne les routes de France. Et par ailleurs, on ne devient pas chanteuse réaliste en prenant des cours de chant dans un appartement du quartier de l'Étoile.
Enregistrement de Renée Davély sur un disque 78 tours.
On a chanté les chansons d'amour, amour, toujours.
À Paris, Renée Davély vit une aventure amoureuse avec un homme marié. Il s'appelle Charles, c'est lui qui la meuble. Autrement dit, il lui paye un loyer. Et sans doute lui achète-t-il aussi un billet d'avion. Car durant l'été 1938, Renée Davély s'envole vers de folles aventures.
C'est la première fois qu'elle prend l'avion et qu'elle va vers des cieux aussi lointains. Avec une amie, probablement, elle y va pour monter une affaire d'abord au Brésil, et puis brouille, difficulté, en tout cas ça ne se fait pas. Et pour gagner sa vie tout en le faisant dans une voie qui la passionne depuis longtemps, avec un trac immense qu'elle décrit pour ses premières prestations, elle va se retrouver à accepter des engagements, alors de façon très classique à l'époque, c'est-à-dire qu'elle a des engagements pour la radio, tout en faisant et assurant des soirées dans des casinos à Buenos Aires en particulier, parce qu'elle passe du Brésil à l'Argentine. René Davelli devient une vedette française en Amérique du Sud, en interprétant d'ailleurs des tangos en français en Argentine. C'est à l'époque une des façons dont la France se déploie à l'étranger, la chanson française, la chanson parisienne, et le tango est à la mode en France depuis les années 20. Et voilà comment René Davelli, là aussi des photos nous la montrent, devient une vedette dans des tenues de gala blanches et célébrée par la presse locale, à partir en particulier donc de ses émissions de radio.
C'est bienvenu que j'ai passé ce désirant sans me lasser des pauvres nuits où le sommeil veut gris.
Buenos Aires est une des plus belles villes de l'hémisphère occidental. On y trouve des parcs élégants et de larges avenues. Le climat est doux et les gens vivent beaucoup au dehors.
Dans cette ville de Buenos Aires, où il fait bon vivre en 1938, à quoi ressemble la vie sociale de René Davelli ?
Pour la vie quotidienne de René Davelli en Argentine en 1938, on a deux traces. D'une part, les articles, et là, description d'une vie mondaine, au sens où elle participe à des galas. Et évidemment, c'est là que s'opère une première initiation à ce qui sera son rôle pendant la guerre. C'est-à-dire que c'est à l'occasion de ses prestations qu'elle va entrer en contact avec les milieux diplomatiques argentins en particulier, que les consuls de France, qu'à l'ambassade, on va lui demander d'animer telle ou telle soirée, le 14 juillet, ou d'autres éléments. Et je pense que c'est là qu'elle est entrée dans les réseaux, on dirait de nos jours, hein, de ces expatriés, de cette diplomatie culturelle française, où on a besoin d'artistes, évidemment, pour exprimer le génie français par la chanson. Et elle est aussi en Argentine, à la radio argentine. Et là, pour le coup, c'est pas les réseaux diplomatiques français. Donc, elle a une existence propre d'artiste française en Argentine, et elle est en train de devenir une artiste française pour les milieux diplomatiques en Argentine. On a des photos qui nous le montrent. Et puis, on a, seconde source formidable, les lettres qu'elle adresse à son ami qui est au Creusot.
Lettre de René Davelli à son amie Jane, le 23 juillet 1938. J'ai reçu les plus grands honneurs et j'ai fait sensation. Je portais une ravissante robe blanche. Et tu ne peux t'imaginer avec quel cœur j'ai chanté l'hymne national. Des haut-parleurs distribuaient ma voix sur cette mer humaine. Une immense gerbe aux couleurs nationales me fut offerte par le consul qui m'a embrassée. Tous avaient les yeux remplis de larmes. Et j'ai vécu le plus joli moment de ma vie. Quel triomphe et aussi quelle curieuse destinée. J'ai une telle hâte de te lire. Écris-moi vite et long. Et même si c'est du mauvais, dis-moi tout.
Son amie, qui n'est pas qu'une amie, qui est aussi quelqu'un qui est sa cartomancienne, à qui elle demande de dire un peu l'avenir et de la rassurer, en fait, parce qu'elle est quand même très inquiète.
Trois pour le passé, trois pour le présent, trois pour l'avenir.
C'est une rupture, comme on l'a dit. Il y a un changement complet d'état, et à laquelle elle dit combien elle reste fidèle, en revanche, alors, au point de vue des relations amoureuses, à son ami qui est à Paris, qui est un homme marié, mais qui cherche à l'installer, à la lancer, comme Lucienne Boyer a été lancée, en lui achetant peut-être, en tout cas il lui promet, une boîte à Paris où elle pourrait être lancée. Elle reste donc fidèle. Donc, vie mondaine, oui, mais pas une vie de demi-mondaine.
Lettre de René Davelli à son amie Jane, fin des années 30, à Sao Paulo. Oui, ma chère. Ton ami René est une vedette de la radio Toupie. C'était pour moi l'unique solution pour gagner gros. Car tu sais que je n'ai pas caractère à faire argent de mes charmes. Et quelle joie pour une femme de gagner sa vie et d'être indépendante.
Et c'est vrai que le fait de devenir chanteuse, c'est aussi et d'abord pour assurer les moyens de son indépendance. Et en ce sens-là, c'est une femme libre vraiment. Enfin, je veux dire, il n'y a pas... Toute sa correspondance le dit, hein, c'est ce qui la motive en premier.
En 1938, retenez que Simone Mathieu et René Davély s'accomplissent dans leur vie. L'une avec succès, l'autre avec l'envie du succès. L'Europe est au bord de l'abîme, mais pour l'instant... Il faut bien continuer à vivre. Retournons en Allemagne. Après l'annexion de l'Autriche, l'ogre nazi n'est pas vraiment rassasié. Bien au contraire, il lorgne maintenant du côté des Sudètes, une région de la Tchécoslovaquie où vit une communauté germanophone. Et à la fin de l'été 1938, Hitler revendique ce territoire et annonce qu'il compte l'annexer dès le 1er octobre. Ce qui revient à déclarer la guerre à la France et au Royaume-Uni, deux alliés de la Tchécoslovaquie. En France, Édouard Daladier, le président du Conseil des ministres, décrète une mobilisation partielle.
Ce rappel concerne essentiellement les réservistes détenteurs de fascicules de mobilisation portant en surcharge les chiffres 2 et 3.
On court à la guerre.
Les intéressés doivent répondre sans délai.
Alors, que faire?
La conférence de Munich, événement historique, va permettre de régler pacifiquement le conflit. Au bord du gouffre, le miracle va s'accomplir. Dans la ville allemande pavoisée, la foule se presse sur le chemin que parcourent les hôtes du Führer. Longuement acclamé, M. Mussolini et le chancelier Hitler gagnent en automobile le Führerhaus où vont se dérouler les entretiens.
Les accords de Munich qui vont régler la question des Sudètes résultent d'une initiative de Mussolini.
La pace et la guerre.
L'historien Olivier Wiewiórka.
C'est Mussolini qui va proposer que, au fond, les quatre grandes puissances intéressées au sort de la Tchécoslovaquie règlent la question. Et ces accords de Munich vont aboutir à donner la région des Sudètes à l'Allemagne nazie, ce qui, bien évidemment, est tout à fait catastrophique, parce que d'une part, sur le plan des principes, c'est un très mauvais signal envoyé à tous les autres pays avec lesquels la France ou le Royaume-Uni ont des accords de défense. On voit bien ici que la garantie française, la garantie britannique ne fonctionne pas. L'autre élément qui est extrêmement embarrassant, c'est que vous aviez dans les Sudètes une bonne ligne défensive. Donc là, on va priver la Tchécoslovaquie d'une ligne de défense relativement solide. Et au fond, troisième élément, on place la Tchécoslovaquie à la merci de l'Allemagne nazie. Et c'est bien évidemment ce qui va se produire, puisqu'en mars 1939, Hitler, faisant fi des engagements souscrits à Munich, annexe de facto la Tchécoslovaquie.
De retour à Paris, Édouard Daladier craint de trouver des Français furieux de sa faiblesse face à Hitler. Mais il est surpris.
Sur l'aérodrome du Bourget, une foule immense s'est massée pour apporter l'hommage inoubliable du peuple de Paris au président Daladier. Quand l'avion se pose sur l'aire d'atterrissage, les acclamations jaillissent de toutes parts. La rumeur s'amplifie et prend bientôt une force incroyable. La foule devient de plus en plus ardente. Le service d'ordre arrive à grand-peine à frayer un passage au président du Conseil, qui gagne sa voiture et rejoint Paris entre une double haie de vivats. Et sur tous les visages se lit la même joie, le même bonheur d'avoir vu les peuples vaincre la guerre.
Qu'est-ce qu'on peut dire des opinions publiques après ces accords de Munich?
Au Royaume-Uni comme en France, les Britanniques et les Français n'étaient pas prêts à entrer en guerre. Et donc, bien évidemment, vous avez cette ambivalence. L'idée, au fond, qu'en donnant un dernier morceau de viande aux fauves, on va sauver la paix et on va éviter une guerre dont on ne veut pas. Une guerre aussi pour laquelle la France, comme la Grande-Bretagne, s'estime mal préparée. Donc l'idée, c'est aussi de gagner du temps.
Et puis, il faut bien avoir en tête que notre pays ne voulait pas la guerre. Le sentiment pacifiste était extrêmement puissant.
Oui, il faut rappeler que la France est ressortie très, très, très appauvrie, très, très, très mutilée par cette Première Guerre mondiale, qui a été une guerre affreuse, qui a provoqué plus d'1,3 million de morts, qui a dévasté toute une partie des régions françaises. Donc, que les Français ne partent pas la fleur au fusil pour défendre l'intégrité territoriale de la Tchécoslovaquie, se comprend. Et là, il est difficile, si vous voulez, de distinguer, au fond, le jugement moral que l'on pose sur Munich, et c'est une question que l'on retrouvera pour la résistance, des réalités de l'homme d'État, d'un homme d'État qui pèse le pour et le contre, qui essaye d'obéir aussi à une forme de raison d'État qui ne fait pas toujours bon ménage avec la morale et qui doit aussi composer avec les attentes de son opinion publique. Et c'est un art extrêmement difficile.
Vive la France quand même.
Vive la paix. Et bravo Daladier.
Ayant assisté à la montée du nazisme, comment réagit Geneviève de Gaulle face à cette concession faite à Hitler?
Ces accords de Munich suscitent le refus et la consternation et la critique de toute la fratrie de Gaulle.
Frédéric Naud-Dufour, historienne.
D'ailleurs, Geneviève de Gaulle le note de manière extrêmement nette par la suite. Elle rappelle ce qu'avait été l'affaire Dreyfus. Elle dit « Dans un milieu en majorité anti-Dreyfusard, mon grand-père a été Dreyfusard. Dans un milieu en majorité munichois, mes oncles et mon père ont été anti-munichois. » Donc c'est une famille qui a une vision extrêmement claire de l'actualité qui est en train de se dérouler, qui comprend que cet acquiescement à Hitler, ce n'est qu'un reculé pour mieux sauter. Et le fait que Charles de Gaulle, le frère de Xavier, ait écrit plusieurs ouvrages déjà pendant l'entre-deux-guerres pour souligner le risque d'un nouveau conflit avec l'Allemagne et pour inciter l'état-major à doter le pays d'une armée qui fonctionne avec des chars, a sensibilisé toute cette famille à ce qui est en train de se passer. Donc il y a ce premier drame et une famille qui est totalement en alerte et qui sait que le nazisme est un régime, comme le dit Charles de Gaulle, par excellence guerrier, et que la menace de la guerre, maintenant, est palpable. Donc ça, c'est une première chose. 10 jours plus tard, le 11 octobre 1938, Geneviève est frappée par un nouveau drame intime qui touche sa famille. C'est sa sœur, Jacqueline, qui était quasiment pour elle une sœur jumelle. Il y avait une espèce de d'amour fusionnel, enfin une admiration. Ces deux jeunes filles s'appuyaient l'une sur l'autre, elles étaient très différentes également. Jacqueline est frappée par la fièvre typhoïde et en l'absence à l'époque d'antibiotiques, elle va décéder. Elle décède le 11 octobre 1938 en Mayenne. Et alors là, pour Geneviève, c'est quand même un rejeu de ce qui s'est passé avec la mort de sa mère, mais avec une notion d'injustice encore plus considérable, puisque Jacqueline est toute jeune, et puis que Geneviève l'a accompagnée pendant sa maladie, et qu'elle n'a pas été contaminée, et qu'elle reste vivante. Donc voilà une jeune fille, en 1938, qui encore une fois se retrouve dans une situation désespérée, et qui, face à ce désespoir, va trouver les ressources incroyable de faire face et de repartir de l'avant.
Geneviève de Gaulle dans la traversée de la nuit 1998. En 1938, juste après les accords de Munich, c'est ma sœur qui nous a quittés. Elle n'avait pas 17 ans, blonde, avec des yeux et des cils sombres, aimant la vie. Nous partagions la même chambre et voilà, son lit était vide. On avait retiré de notre armoire ses habits, semblables aux miens.
À l'automne 1938, quel rapport entretiennent Geneviève de Gaulle et son oncle Charles?
Alors Charles de Gaulle et Geneviève de Gaulle sont deux personnages finalement très similaires, qui ont beaucoup de points communs et qui développent très tôt une relation particulière. Et on ne pourrait pas le dire pour beaucoup des autres neveux et nièces du général de Gaulle. Je pense que chez eux, il y a une même profondeur spirituelle. C'est deux personnes assez mystiques, si on peut dire. D'abord profondément croyants, mais avec une implication de leur âme extrêmement importante. Et il y a une proximité intellectuelle très nette. D'abord, ils partagent tous les deux un très fort goût de l'histoire. Bon, on sait que Charles de Gaulle est un grand connaisseur de l'histoire de France, qu'il en a été aussi un des acteurs, qu'il a écrit sur cette histoire. N'oublions pas qu'il a lui-même, Charles de Gaulle, un grand-père, Julien Philippe, qui était chartiste.
Un chartiste, c'est un élève de l'école des Chartes, appelé à devenir conservateur.
Et son propre père, Henri de Gaulle, donc le grand-père de Geneviève, qui était professeur d'histoire. Et on va le voir, Geneviève est très intéressée, elle également, par les études de l'histoire. Donc il y a ça qu'il partage. Il y a ce rapport à l'Allemagne. N'oublions pas que de Gaulle est un rescapé, comme Xavier de Gaulle d'ailleurs, de la Première Guerre mondiale. Et qui d'ailleurs, il en a tiré des leçons personnelles. Hein. Il a expliqué que pour lui, ne pas avoir été tué à Douaumont, alors qu'il a été laissé pour mort sur le champ de bataille, est, je le cite, « le lourd problème de ma vie ». Et Geneviève, qui vient d'affronter la mort à deux reprises au plus proche de sa chair avec sa mère et sa sœur, je pense qu'elle trouve un écho de tout ça dans la personnalité de son oncle. Et puis, il faut aussi souligner qu'en raison justement de ces drames successifs, Charles de Gaulle va prendre soin tout particulièrement de ses neveux et nièces de chez Xavier de Gaulle. Il y a vraiment une proximité qui s'installe à travers des discussions, à travers des sorties, à travers des fêtes de Noël que l'on passe ensemble.
Quittons Geneviève de Gaulle et venons-en à notre cinquième personnage. En 1938, alors qu'Adolf Hitler a vampirisé les Sudètes, Lucie Aubrac a 26 ans. Elle vit à Paris et vient de décrocher l'agrégation d'histoire.
Toutes nos félicitations aux brillants lauréats.
Or, ce n'était pas gagné d'avance.
Alors décrocher l'agrégation d'histoire, ça n'est pas une évidence pour plusieurs raisons.
Laurent Douzou, historien et biographe de Lucie Aubrac.
D'abord, Lucie a reçu une formation à Blanzy, Mont-Soleil-Mines et en préparant l'école normale des Batignolles. Une formation très solide, mais qui n'a rien à voir avec la variété, l'exigence d'un enseignement supérieur qui est alors réservé à une toute petite élite. Elle a le certificat d'études primaires, le brevet élémentaire. Et pour entrer à la Sorbonne et donc viser l'agrégation in fine, il faut le baccalauréat. Elle va le préparer toute seule en candidate libre. Première partie juillet 32, deuxième juillet 33. Mais il lui faut vivre en même temps et elle fait donc quelques remplacements en école maternelle. Elle fait la plonge dans un restaurant. Et donc à la fois, elle poursuit des études pour réussir à entrer en Sorbonne en passant son baccalauréat. Et en même temps, elle travaille. Et quand elle a son bac en poche, elle entame des études supérieures d'histoire et de géographie. Et elle peut alors présenter l'agrégation d'histoire et de géographie qu'elle obtient à sa première tentative en juillet 1938 en se classant sixième. Donc c'est pas évident en raison de ses lacunes de culture générale, mais c'est aussi très difficile en raison de la vie très précaire qu'elle mène à Paris. Parce que elle est obligée, pour faire ses études, de travailler. Et donc, elle a deux fers au feu.
Je travaillais dans un restaurant, boulevard des Batignolles. J'étais serveuse, oui.
Lucie Aubrac, 1992.
Et je faisais un peu de figuration dans le théâtre des Pitof qui était à côté, pour gagner ma croûte.
Tout le monde est en place? Parfait.
Fallait que je vive quand même, et mes parents n'avaient pas les moyens de m'entretenir. De temps en temps, ils m'envoyaient un colis. Ma pauvre mère mettait là-dedans des œufs. Alors elle les faisait cuire avant, pour que ça arrive des œufs durs et qu'ils ne cassent pas en route. Ils étaient verts, mais verts comme un pré, si bien qu'ils étaient immangeables. J'ai jamais osé lui dire, et je l'ai toujours remercié des œufs durs qu'elle m'envoyait.
Alors, quelles sont les fréquentations de Lucie Aubrac dans ce Paris étudiant des années 30?
D'abord, elle fréquente le Cercle international de la jeunesse, qui est installé rue Guy de la Brosse dans le 5e arrondissement de Paris. C'est la société des amis, c'est-à-dire sont les Quakers.
En Europe et en Asie, les Quakers prêchent une meilleure entente parmi les peuples qui ont été ou pourraient être en guerre.
Et les Quakers accueillent des jeunes gens de toute nationalité qui viennent pour écouter des conférences.
Un des professeurs est chargé de diriger les débats qui portent sur de nombreux sujets. Affaires internationales, problèmes sociaux, et en fait sur tout ce qui se rapporte au bien-être de l'humanité.
Et là, on a un aspect de la personnalité de Lucie Bernard. Elle écoute avidement des conférences et parmi les conférenciers, il y a Célestin Bouglé, Gandhi, André Chanson, Jean Cavaillès, Ilia Ehrenbourg, André Philippe, Alexandre Minkowski et beaucoup d'autres. Et elle s'abreuve de ce qu'elle entend là. Elle fait aussi quelques voyages avec la Société des Amis, notamment en Allemagne. Elle est très active dans cette société. Elle écrit même dans la feuille de la Société des Amis qui s'appelle « L'écho des Amis ». Et donc, elle fait son miel de tout ce que peut lui apporter cette société, ce cercle international de la jeunesse. Et ça, c'est très très important parce qu'au fond, ça lui permet de pallier les carences de sa culture générale. Et elle est comme un buvard, elle absorbe absolument tout ce qu'elle entend. Mais parallèlement à cette adhésion au cercle international de la jeunesse des Quakers, elle adhère aux jeunesses communistes. Et notamment à la cellule du 5e arrondissement de Paris, qui est alors reliée au rayon du 13e arrondissement.
Lucie Aubrac, dans les archives du Parti communiste français, 12 décembre 1945.
Paysans, ouvriers, chômeurs, jeunes gens et jeunes filles, fils du peuple, amis, camarades.
J'ai adhéré aux jeunesses communistes en 1932.
Entendez la voix du parti.
Les difficultés matérielles que j'ai connues m'ont fait adapter mon pacifisme à des idées plus combatives. Et j'ai adhéré aux jeunesses communistes sans savoir rien de plus sur le parti que son côté antimilitariste.
Et très vite, elle se révèle comme une militante de premier ordre, puisqu'elle est très vite secrétaire des jeunesses communistes du 5e, puis du rayon du 13e, et puis elle devient membre du bureau de Paris-Ville. Pourquoi est-ce qu'elle se distingue ? Parce qu'elle a un courage physique hors norme. Elle se bat physiquement contre les camelots du roi, par exemple.
Contre les ligues fascistes, achetez l'humanité !
Et puis elle a une très grande audace intellectuelle, c'est-à-dire qu'elle n'a peur de rien.
Cherchez la bagarre.
Et donc elle pense que tout est possible.
Je ne me suis jamais considérée comme quelqu'un qui devait faire bande à part parce que j'étais une fille. Et je me trouvais mieux dans ce milieu, plus de bagarres. J'avais pas tellement le goût de la dentelle ou des choses comme ça. Alors j'aimais mieux être carrément dans le monde des garçons.
Alors là, les communistes vont la former. Elle va être formée à bonne école puisque dans le 13e, elle fréquente assidûment André Marty, qui est une des grandes figures du Parti communiste, et Lucien Mojovi, qui lui est un activiste de tout premier rang. Et donc, elle va faire ses armes politiques. Et entre 1935 et 1937, elle est membre de la cellule Panhard du PCF dans le 13e arrondissement. Et là, elle va se lier avec des jeunes gens qui en ont Joseph Epstein, Victor Leduc, Jacques et Jean-Pierre Vernant, c'est-à-dire des gens qu'elle retrouvera d'une façon ou d'une autre dans les rangs de la résistance.
Ça veut aussi dire, Laurent Douzou, une conscience aiguë chez Lucie Bernard de ce qu'est le fascisme et le nazisme.
Ah, il est parfaitement clair que Lucie Bernard, dans les années 30, est une antifasciste convaincue.
Je commençais à mieux mesurer le péril fasciste. De jeunes Polonais, des Hongrois, des Roumains, des Allemands nous parlaient du fascisme.
Mais pourquoi vous êtes en chassé d'Allemagne ?
Parce que j'ai les cheveux bruns et bouclés. Parce que nous portons un nom juif.
C'est ignoble.
C'est pas une intellectuelle, contrairement à l'image qu'on a d'elle souvent. C'est quelqu'un qui a un esprit très pragmatique, qui a une intelligence très vive, qui comprend parfaitement, mais qui se plaît plus dans le combat politique que dans la joute idéologique. Mais elle va apprendre quantité de choses, et il est certain que cette formation d'antifasciste va jouer un très grand rôle dans les décisions qu'elle aura à prendre à partir de 1940.
Alors, revenons à la rentrée 1938. Lucie Bernard est une jeune agrégée d'histoire. Elle est nommée professeure d'histoire dans un lycée à Strasbourg, en Alsace, où elle rencontre Raymond Samuel. Qui est-il, ce Raymond Samuel, Laurent Douzou ?
Alors, Raymond Samuel, c'est un jeune homme qui a 2 ans de moins qu'elle, qui est issu d'une famille de la bourgeoisie de Côte d'Or, qui a fait des études au lycée de Dijon, puis au lycée Saint-Louis à Paris, et qui est devenu ingénieur des ponts. Il est très proche du Parti communiste sans être officiellement membre de ce parti. Et c'est intéressant parce que sa personnalité est aux antipodes de celle de Lucie. Il est aussi discret et réservé qu'elle est expansive et volubile. Mais je dirais que l'amalgame entre ces deux tempéraments aux antipodes l'un de l'autre va se faire remarquablement. C'est-à-dire que le couple va se marier en décembre 1939 et on peut dire que à partir de leur rencontre à Strasbourg, ils vont être d'un bout à l'autre exactement sur la même longueur d'onde avec des tempéraments, je le répète, tout à fait opposés.
En 1938, jeune agrégée d'histoire, Lucie Aubrac est une militante antifasciste, prête à en découdre. En conclusion de ce deuxième épisode, ayez en tête qu'à la fin des années 1930, nos cinq femmes ont conscience, comme la grande majorité des Français, que la menace de la guerre pèse lourd sur la vieille Europe. Cela dit, jusqu'à l'été 1939, elles habitent pleinement leur vie et se projettent vers l'avenir.
Trois pour le passé, trois pour le présent, trois pour l'avenir.
Et puis arrive le 1er septembre 1939. Et sans doute peut-on les imaginer chacune, l'oreille collée à son poste de radio.
Les Allemands ont pénétré en Pologne sans déclaration de guerre. Aussitôt, les gouvernements de France et de Grande-Bretagne ont décrété la mobilisation générale et ont adressé à l'Allemagne un ultimatum qui expirera demain, dimanche 3 septembre à midi. La guerre semble maintenant inévitable et le chancelier Hitler en portera seul la responsabilité.
Comment nos cinq femmes, après l'invasion de la Pologne par Hitler, ont-elles affronté l'effondrement de la France face aux troupes allemandes? C'est l'horizon du prochain épisode. Les Résistantes, un récit de Philippe Collin, réalisé par Violaine Ballet. Lecture, Laure Calamy, Aurore Clément, Romane Boringer et Anna Mouglalis. Assistance éditoriale, Irène Menahem, assistée de Léonie Ferré. Documentation sonore, Frédéric Martin. Mixage, Basile Bocquer, Cédric Diallo. Prochain épisode, La drôle de guerre. Les Résistantes est un podcast original de France Inter.